La question des déchets nucléaires, ça fait partie d'une liste de points problématiques de cette industrie. Et donc, moi, je vais essayer de rappeler un petit peu le contexte pour démarrer la conversation. I'm going to explain a little bit why we are here tonight and why we are speaking about nuclear. So some activists like Fabienne in front of me, they have launched un appel, a call based on science. So it's called in French appel de scientifique contre un nouveau programme nucléaire. It's a call against a new nuclear program in France. And le fait est qu'on sent dans notre pays une dynamique de renaissance d'une industrie nucléaire qui s'est décidée dans la plus parfaite obscurité. Il y a effectivement un président qui a été élu avec ce programme dans l'idée de nouvelles centrales dans son programme, mais il n'a pas été élu pour ça. Ça serait vraiment malhonnête de dire que les Français ont voté positivement pour un nouveau programme nucléaire. Pourtant, force est de constater que des quantités impressionnantes d'argent public sont investies dans un certain nombre de nouveaux réacteurs qui posent énormément de questions, autant de questions d'ailleurs que les anciens. Et les questions posées par les anciens sur le premier plan nucléaire qui a été développé dans les années 70. Les questions posées sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident grave, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets, c'est des questions qui sont absolument pas traitées correctement, selon en tout cas les personnes qui ont lancé cet appel. Voilà, donc je pense que ce soir, il n'est pas nécessaire de revenir sur les côtés techniques de cette industrie. Elle est très technique, il y a de nombreux débats, d'ailleurs qui sont pris dans un contexte plus général de questionnement sur l'énergie, où les gens s'opposent entre éoliennes, panneaux solaires, centrales nucléaires et autres sources d'énergie, en s'opposant des arguments purement techniques. Moi, ce qui m'a frappé, c'est plutôt les forces tectoniques au niveau politique qui font que, de toute façon, de manière inexorable, ce programme nucléaire est lancé sans qu'il y ait vraiment de réflexion et que ça engage le pays et aussi d'ailleurs toute l'Europe et puis même peut-être le monde entier sur une piste qu'il sera ensuite une piste irréversible. Si on construit ces infrastructures, on va produire de nouveaux déchets. On se lance aussi dans un certain type j'allais dire, de croissance économique. Donc ce programme nucléaire s'inscrit dans une certaine vision de l'avenir où on a besoin de puissance importante. Et manifestement, des personnes ont fait le choix de prendre un certain nombre de risques, ceux que j'ai évoqués il y a un instant, pour bénéficier voilà, d'une sorte de source d'énergie centralisée, puissante, qui permet finalement de continuer à faire tourner le monde productiviste tel qu'il existe actuellement. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète les choses. Et ce que je trouve moins frappant, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas vraiment de débat, en fait. Il y a des micro-débats localement. Il y a effectivement des gens qui vont, par exemple, s'inquiéter du fait qu'on construise des éoliennes près de chez eux dans leur campagne. Et ces gens-là vont être incités à penser que le nucléaire, finalement, est plus simple que ces investissements dans les sources d'énergie dites renouvelables, dans la mesure où c'est précisément pas dans leur jardin qu'on va construire ces nouvelles centrales. Donc c'est un truc qui m'a frappé. Moi, j'ai suivi un certain nombre de combats contre l'implantation de grandes infrastructures d'éoliennes, par exemple en mer. Dans les milieux, disons, concernés par ces infrastructures qui posent un certain nombre de problèmes indéniables. il y a cette idée que de toute façon, l'énergie, on peut la produire en installant tel ou tel réacteur, alors, on ne sait pas où, mais qui serait réputé être plus efficace. En tout cas, nulle part, on pose la question de l'énergie en elle-même et du type de société qu'on veut laisser à nos enfants. Et moi, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un investissement qui est juste destiné à faire perdurer le monde techno-industriel tel qu'il existe actuellement. Ou peut-être à l'adapter. On entend de plus en plus ce mot adaptation. Il faut changer, faire une forme de transition. Mais finalement, ce n'est pas une vraie transition. On continue, on essaye de prendre le monde tel qu'il existe et puis de l'adapter tranquillement et de le faire perdurer plus longtemps. Voilà, donc c'est mon sentiment. Et donc, moi, c'est les points, en tout cas, qui me semblent les plus important à évoquer au-delà des aspects purement techniques qui sont, si vous regardez dans la presse, les gens vont s'opposer. Voilà, une éolienne, ça produit tant, une centrale nucléaire, ça produit tant. Il y a des combats de coqs sur l'extractivisme. Il faut combien de terres rares pour fabriquer tel générateur éolien? Il faut combien de mines d'uranium dans les pays du tiers-monde pour alimenter vos centrales nucléaires, etc., etc. Moi, je pense que ces questions, maintenant, on les a suffisamment entendues, et c'est plutôt des choix politiques, des modèles de société. On s'engage en faisant ce type d'investissement, on s'engage de manière irréversible dans une certaine direction. C'est ça qui m'inquiète, le fait que ça n'a jamais été discuté, convenablement. Une fois qu'on a construit ces infrastructures, elles sont là pour... Les infrastructures elles-mêmes, elles sont là pour des dizaines et des dizaines d'années. On parle de 80 ans pour les réacteurs qui vont être construits. Et puis, malheureusement, le démantèlement de ces infrastructures... Les fameux déchets ou externalités négatives, etc., ça, c'est pour encore bien plus longtemps. Et donc, il y a des gens qui ont arbitré. Ils préfèrent laisser ça à nos enfants et garantir une certaine forme d'énergie très concentrée à court terme. Donc, voilà, moi, j'étais curieux de recueillir les sentiments d'une diversité de personnes sur cet aspect un peu politique. Et je dois dire que j'ai commencé en anglais tout à l'heure parce qu'on a la visite impromptue d'un collectif d'artistes et d'activistes venus de Corée qui ont à leur agenda une problématique liée aussi au nucléaire. Ils sont des voisins de Fukushima. Ils s'inquiètent du relâchement dans l'océan des eaux contaminées de la centrale de Fukushima. Et puis, dans leur propre pays, il y a aussi une problématique de continuer ou pas à recourir aux réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité. So, at some point, maybe I will ask you a few questions later about nuclear in Korea and... Et puis, on a peut-être d'autres témoignages de différentes personnes autour de cette table. Et je ne sais pas qui veut enchaîner sur ma parole. Peut-être Fabienne, tu as des choses à dire.
Peut-être parler de l'appel de scientifiques.
Oui.
Je peux parler de cet appel de scientifiques. Alors d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas du tout une experte du nucléaire, même si je suis secrétaire du GSIEN, c'est-à-dire le groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire.
Tu es quand même scientifique.
Je suis scientifique, mais je n'ai aucune expertise particulière sur le nucléaire. Mais c'est même un sujet auquel je m'intéressais de très loin jusqu'à assez récemment. Donc je connais peu de choses et certainement beaucoup moins que Michel, qui est une vieille militante sur le sujet. Donc par contre, il se trouve... il se trouve qu'en rentrant dans le GSIEN, en prenant son secrétariat, je suis tombée en fait à un moment un peu historique, on va dire. C'est cette relance du nucléaire. Et un certain nombre de membres de cette association et de membres de Global Chance On pensait qu'il était temps de réactiver en fait une action qui était à l'origine en fait de la création du GIUCN dans les années 70, qui est le lancement d'un appel de scientifiques critiques sur ces choix nucléaires. L'idée, elle a traîné quelques mois, assez longtemps, il faut dire, parce que bon, il fallait que quelqu'un se prenne la plume et essaye de poser par écrit ce qu'on avait à dire sur la question. On a fini par tomber d'accord sur le texte qui est actuellement proposé à la signature que vous avez en ligne. Donc, je crois que la page, c'est appel de scientifiques contre un nouveau programme nucléaire.
Avec des tirets entre les mots.
Voilà. J'imagine que si on cherche sur un moteur de recherche, on tombe dessus.
Vous pouvez aussi aller sur la page de la Générale et regarder l'annonce du séminaire d'aujourd'hui. Et vous avez le lien pour...
Okay. Voilà. Donc cet appel, il est accompagné de sources, c'est-à-dire qu'il y a une autre page où il y a un certain nombre de documents qu'on peut aller consulter pour vérifier un petit peu la façon dont les faits qui sont énoncés dans cet appel sont étayés. Ces faits, ils tournent en fait autour du rappel de réalités qui sont pour l'instant complètement occultées dans le débat public, complètement oubliées. On est dans un état d'amnésie assez effrayant. On est dans une situation où, en gros, tous les accidents nucléaires qui se sont produits jusqu'à nos jours, finalement, ne sont pas si graves et on va vivre avec et on peut prendre le risque d'en avoir d'autres. Les déchets, on n'en parle absolument pas. C'est le silence ou alors c'est pour dire des contre-vérités manifestes du type on pourrait les stocker dans une piscine olympique, ce qui est une pure contre-vérité. Évidemment, on ne s'occupe pas du tout de faire un bilan. Donc un bilan, par exemple, de la situation des territoires qui ont été contaminés par ces accidents nucléaires. On ne les a pas, ces bilans.
Je dois dire que dans ce même séminaire, nous avons eu la chance d'accueillir des personnes qui ont étudié et visité les territoires de Fukushima.
D'accord.
Et qui ont précisément nous ont raconté comment, même si effectivement il n'y a pas eu de drame instantané, comment se déploie sur le long terme des drames humains tout à fait notables, des gens qui ont perdu leur maison, des gens qui ont perdu leur racine sur un territoire assez grand. Et effectivement, tout ça est absolument occulté parce qu'on va compter le nombre de personnes directement victimes des radiations en oubliant complètement l'impact social sur
et
le long
que,
terme.
Et sanitaire. C'était le quatrième point, c'est-à-dire le bilan sanitaire de toutes ces pollutions, de tous ces accidents, qui n'est absolument pas fait, alors qu'il y a quand même des éléments pour penser que, même si on ne les compte pas, toute cette technologie nucléaire, enfin le nucléaire civil comme militaire d'ailleurs, mais a fait en fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, qui sont encore très difficiles à chiffrer. Mais il faut aller voir un peu les études pour comprendre que oui, il y a certainement des morts qui sont liées à ça. Donc voilà, ça c'est un bilan qui n'est pas fait. C'est donc une décision qui est actuellement en cours d'être prise dans notre pays. Il était important de rappeler ces choses. Il était aussi important de rappeler que le contexte est même bien pire que dans les années 70, puisqu'on est en train de lancer une industrie qui est dangereuse, qui a énormément besoin d'eau, qui est extrêmement vulnérable à des attaques éventuelles. Donc, on est dans un contexte géopolitique qui n'est pas très rassurant. Hein, on a quand même la guerre en Ukraine. Et tout le monde dort. Et les gens, le débat se situe plus au niveau de comment va-t-on utiliser le nucléaire pour en gros amortir ou nous permettre de continuer à vivre à peu près comme on vivait avant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce choix du nucléaire, si on lit les documents prospectifs, par exemple du CEA, c'est essentiellement un choix qui n'est pas fait pour le confort de la population, mais qui est fait pour que l'industrie lourde puisse continuer ses activités à moindre coût. Voilà, c'est pour assurer à l'industrie lourde, que ce soit la scierie, la cimenterie ou d'autres, j'en passe, une activité rentable sans avoir à payer des coûts énergétiques trop importants. Voilà. Alors, je crois que j'ai fini sur cet appel de scientifique. On va peut-être faire tourner la parole. Encore une fois, je ne me présente pas comme une experte. Hein, tout ce que je dis là, je n'ai pas forcément tous les éléments pour vous étayer tout de suite les choses. Il faut effectivement qu'on réactive un certain nombre de scientifiques experts du domaine pour ça.
Mais moi, j'insiste sur ce que j'ai dit en préambule. Les questions techniques, effectivement, elles existent. Effectivement, on peut s'amuser aussi à essayer d'estimer le nombre de victimes de Fukushima, de Tchernobyl. Surtout, il y a beaucoup d'inconnus, etc. Mais selon moi, donc il y a des inconnus, c'est des débats d'experts. Mais il y a des questions, disons, plus directement accessibles qui sont juste, comme tu l'as évoqué, d'ailleurs aussi, le choix de société vers lequel on se dirige. Effectivement, on fait ces investissements, effectivement, parce qu'on a besoin d'énergie concentrée. Et c'est ça qui m'inquiète dans un état, un État qui développe ce type d'industrie nécessairement développe aussi un certain type de police, un certain type de surveillance, un certain type de relations, parce que on a concentré dans cette énergie très concentrée, il y a énormément de dangers. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, en fait. Et c'est donc je connais très peu de gens qui sont vraiment dans les cercles de décision. Qui ignore vraiment les dangers du nucléaire. C'est plutôt un arbitrage. Ils préfèrent prendre ce risque. Il y a des gens qui préfèrent prendre ce risque pour justement engranger les avantages, entre guillemets, dont tu as parlé. Je pense qu'il y a une question strictement politique, indépendante des questions purement techniques, qui sont... on n'a même pas besoin de rentrer sur des questions de savoir si combien d'années on a de réserves d'uranium pour faire tourner l'industrie. C'est aussi un problème puisqu'on construit là des EPR qui sont des réacteurs relativement classiques et les ressources pour faire tourner cette filière classique sont vraiment assez restreintes en réalité. Et ça ne représente pas, par exemple, une filière d'avenir si on voulait inonder la planète d'une énergie. C'est vraiment un truc purement réservé à certains pays détenteurs de cette technologie.
Moi, je voulais bien poser une question, un peu méta. Parce que moi, je suis sociologue, donc je travaille sur des choses qui en avoir, c'est-à-dire que je travaille sur racisme, anti-racisme. Et là, on voit clairement que pour les gens qui sont comme nous, du coup, les personnes qui travaillent sur l'antiracisme, on a très peu d'espace. Alors que les gens, il y a d'autres personnes, ils pourraient peut-être souffler à l'oreille du gouvernement. Du coup, revenu sur ces questions nucléaires. Quand vous lancez cet appel, du coup, comment vous imaginez déjà qui sont les targets, les personnes que vous souhaitez diffuser l'influence? Est-ce que c'est l'imaginaire, c'est plutôt déjà qui sont ces scientifiques? Là, je vois, il y a plus de 800 personnes qui ont signé. Du coup, dans le champ académique, est-ce que on peut observer aussi une division entre ceux qui sont dans la position contre un nouveau programme et d'autres qui pensent que c'est moins grave et qui ont est-ce que dans le champ opposé, est-ce que ces personnes-là, ils ont beaucoup plus de capacité à faire du lobby ou bien de parler avec le décideur politique? Et aussi dans le champ scientifique, est-ce qu'on peut observer une sorte de divergence, un peu comme ceux qui existent dans le champ économique le hétérodoxe et orthodoxe, une sorte de déséquilibre de pouvoir à la fois dans le champ politique et dans le monde académique?
Je crois qu'il y a beaucoup de questions dans ta question. D'abord, pour ce qui est des scientifiques signataires, effectivement, c'est largement ouvert en fait à tous les domaines des sciences. Donc, ça va jusqu'aux sciences humaines et même presque par extension aux humanités. Ça, c'est très ouvert. Maintenant, dans le milieu scientifique, où en est le débat? Je ne pourrais pas te dire parce que je pense qu'on a tous, en plus c'est très cloisonné, donc on a tous une vue partielle de la situation. Dans le milieu que je connais moi, qui est le milieu des sciences dures à la frontière de la biologie, mais enfin en restant très très dur, en fait il n'y a pas de débat, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Voilà. On n'en parle pas, ou si on en parle, c'est sur la base des évidences, on va dire, jankoviciennes, c'est-à-dire à un niveau qui est consternant, en fait, qui est consternant de voilà, c'est quand même un discours qui est en grande partie faux et pour le reste simpliste. Voilà, simpliste ou faux. Voilà. Et sur cette question-là, en tout cas, hein, donc Jean Covici a le mérite d'annoncer un certain nombre de choses et de poser un certain nombre de problèmes. Mais sur la question nucléaire, c'est clairement il y a des contre-vérités. Donc malheureusement, ce discours-là est le fond commun culturel de base des gens qui travaillent dans les sciences dures. Ouais, tout simplement, à l'exception peut-être de ceux qui connaissent vraiment bien la question, c'est-à-dire qui travaillent vraiment sur le sujet du nucléaire. Finalement, le débat, il n'est pas d'un meilleur niveau que celui du grand public, on va dire. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément les scientifiques, en tout cas les scientifiques des sciences dures, qui ont légitimité à dire ce qui doit être fait, quels choix doivent être faits dans notre pays ou même dans le monde, parce que c'est quelque chose qui est une question qui est internationale. Ton autre question, c'était sur les retombées politiques de tout ça, enfin sur... Ouais, tu peux reformuler ta deuxième question parce que...
Ah oui, ouais. Du coup, bah, là, tu as répondu une partie sur du coup, la division au sein du monde scientifique. Mm. Et du coup, un appel comme ça, donc comment on imaginait qui sont les personnes...
La cible.
Oui, peut-être. La cible.
Quelle est la cible?
Comment on peut imaginer ça peut créer une vraie influence sur le fait de la politique?
Alors, c'est vrai que ce qu'on voulait, c'était effectivement obliger les scientifiques à réfléchir à la question et à réfléchir autrement que par la première page du Monde. Voilà. Peut-être ce n'est qu'un début. Cet appel, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est faire un manuel qui s'appellerait « Manuel de survie en milieu pronucléaire ». Avec effectivement le même texte là, mais avec toutes les références vraiment parfaitement identifiées pour chacun des faits qui sont énoncés. De façon à ce que quelqu'un puisse, en quelques heures, se faire une opinion qui n'est pas celle médiatiquement imposée en ce moment par un certain nombre de... Voilà. Donc... évidemment, on accepte aussi les signatures de soutien. Donc, il y a plusieurs, je sais pas combien on en est, 2000 signatures de soutien. On veut aussi en profiter pour alerter le public et finalement lui dire qu'il est légitime à questionner ses choix. Et en gros, reposer la question. Parce qu'actuellement, il y a une espèce de consensus qui fait que... Le discours anti-nucléaire est maintenant vraiment très, très fragilisé, voire invisibilisé. Alors, ce qui est d'ailleurs la conséquence d'une répression policière qui s'est exercée dans les années, les mois récents. Hein, donc, c'est un milieu qui est quand même aujourd'hui fragilisé. Voilà. Donc, reconstruire ça en redonnant la parole à la critique et en repartant effectivement des faits, donc avec une démarche scientifique.
Juste une note, mais le manuel de survie, il existe. Oh, okay. C'est un projet. Ah, okay.
Okay. Je disais, c'est un début. Hein, c'est un début. Et d'ailleurs, je fais un appel à toutes les bonnes volontés, parce que c'est un gros boulot.
Il y a un projet.
Il y a un projet, oui, bien sûr. Ben, disons que l'appel et les sources qui sont jointes, c'est l'embryon de ce que ça pourrait être.
Ouais, juste pour illustrer qu'à la librairie Michel Frirk à Montreuil, on peut trouver beaucoup de documentation qui m'ont fait penser à ce que tu commentais. Donc ça peut être aussi un début de contribution à manifeste. Ou...
Alors ça, c'est une librairie un peu militante qui est proche de milieux déjà bien informés. Et la question, en effet, se pose de cette espèce de norme. Quand on est éduqué dans le milieu scientifique, on est éduqué à croire finalement à une sorte de progrès un peu scientiste. Et on est, si on ne fait pas attention, effectivement, on a tendance à prendre pour acquis, à considérer comme évident toutes sortes de choses qui en fait, ne le sont pas du tout. Pour moi, le nucléaire, c'est qu'un symptôme d'une sorte de démesure industriel C'est un moment, comment dire, effectivement très, très problématique, mais qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste d'un projet techno-industriel qui est lui aussi globalement pas du tout remis en question. En fait, quand une grande partie du monde de la recherche qui sont dans les sciences dures, quelque part, on est les petites mains qui construisons cette espèce d'utopie. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, une expérience de terrain? So maybe I will just very quickly translate into English what we have discussed in French for those who come from other countries. So we have a very old nuclear culture in this country. It's deeply rooted in the state, and it's not really discussed. It's considered as something almost evident. And nowadays, they want to build new nuclear plants. We are going to actually, there is no real democratic questions about that. And unfortunately, I think there is a very strong impetus from the state to build this, whatever the people think. And so we are just going to produce more nuclear waste, and we are just so we are already in a deeply, this is already a very nuclear, the nuclear industry is already very important here, so we are already in this path, but we are going further in this direction, and it will be very difficult to switch and to go back to because once you have invested a lot of money in this industry, it will be difficult to say that actually we prefer something else. So is it possible to have a testimony from Korea? What's the problems of related with this industry from the Korean side?
Yes, I don't know what we're talking before, but pollution problem is a very big issue in the Earth, and nuclear pollution is most big issue is that. And now the Fukushima wastewater is to open the sea, as then the nuclear pollution problem is all human's work. It's most needed water doing is the most most for the green message. It's all. What are doing? We are for the nature. Yeah. It's a breath and eating. It's all is a.
Do I understand correctly that in Japan they are currently releasing polluted water in the ocean, and that people in Korea are afraid of the pollution coming from Japan? Is it true?
The Korean people is don't understand why wastewater is to open the ocean, but Korean president is yes, it's open. What? Yes. these some crazy things.
So the new Korean president also wants to build new nuclear plants in Korea. Is it true that there is a new reactors that are planned in Korea?
Many Korean peoples is campaign and is a demonstration
against
to the wastewater. The police stop.
Mm-hmm.
Please stop. It's open the ocean, the wastewater. Yeah, I think.
Très bien. Donc, on a eu une visite impromptue d'un groupe d'activistes coréens qui traversent l'Europe en bus et qui font des performances. Et donc, c'est une sorte de pur hasard s'ils sont là ce soir. Mais c'est un hasard significatif, hein, qui sont motivés essentiellement par la question de l'eau polluée stockée à Fukushima qui est en train d'être relâchée dans l'océan. Donc les Coréens, qui sont des voisins, ne sont pas contents de cette pollution et ça suscite une vague d'indignation dans leur pays. Et puis c'est un pays aussi qui possède un certain nombre de réacteurs situés près de très grandes villes et qui sont eux-mêmes directement, à se questionner sur la possibilité ou pas de développer plus avant cette technologie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui veulent prendre la parole et nous relater leurs sentiments sur cette voie vers laquelle on s'engage inexorablement?
Moi, je pensais que c'était quand même une technologie qui est très impalpable et que tant qu'on n'a pas d'accident, on ne sait pas en vérité, en dehors des mots, si c'est dangereux ou pas, quoi. C'est des discours qui se fondent parmi des milliers d'autres. Et on hérite du discours de notre milieu social sans vraiment avoir les outils cognitifs pour comprendre en quoi c'est vraiment dangereux, quoi. On sait qu'on peut contracter du cancer, mais ça reste des mots si l'accident n'est pas venu à notre porte. Et peut-être que c'est la solution, c'est de créer quelques accidents pour que la population se rende compte de la dangerosité de ce que c'est, quoi.
Moi, j'ai un point de vue différent. Les sources d'énergie, quelles qu'elles soient, ont un impact plus ou moins diffus. Donc, effectivement, le nucléaire étant très concentré, le danger est très concentré. Mais vouloir isoler cette source d'énergie avec ses externalités négatives et la séparer des autres, c'est un peu dangereux parce que les autres sont aussi très toxiques. C'est plutôt cette démesure énergétique. On se lance là-dedans en France avec cette idée de continuer à abuser en fait de l'énergie pour continuer à détruire mieux la planète. Et le top du top, ça serait que la fusion nucléaire finisse par fonctionner un jour. Et là, ça serait vraiment la catastrophe si jamais ce qui nous annonce est vrai, si jamais on arrive à fabriquer une source d'énergie quasi infinie, peu polluante et pas très chère. Ce serait vraiment catastrophique parce que cette énergie serait immédiatement utilisée pour faire du tourisme partout, finir de raser les forêts, etc. etc. Et voilà, donc mon sentiment, c'est que voilà, ton inquiétude relative à cette technologie, elle est légitime, mais il y a des questions plus fondamentales aussi sur le type d'État qui est nécessaire pour... Quand tu as une centrale, tu as forcément un État puissant, une police, une armée qui protège le truc. Ça oriente, au-delà de la technologie, ça oriente la structure de l'État, la relation du public avec une source d'énergie extrêmement concentrée, qui fait des envieux, qui est une source, un enjeu militaire. On le voit en Ukraine, effectivement, comme Fabienne l'a dit tout à l'heure. Enfin, voilà, ça a des implications, extrêmement vaste, en fait, bien au-delà de la pure question de la dangerosité de la source elle-même, quoi. qui n'empêche pas de se poser aussi ces questions-là, bien sûr.
Juste, je voudrais te faire remarquer que tu appelles de tes voeux un accident. On en a déjà eu et on les a oubliés. Moi, je crois que ce qu'il faut surtout qu'on travaille, c'est notre mémoire.
Et par exemple, en France, on a eu des accidents qui ont été cachés aussi dans les années 80. Il y a eu la centrale nucléaire à côté de chez moi. Je suis né à proximité de la centrale de Saint-Laurent-les-Eaux. Et il y a eu deux accidents. Voilà pourquoi, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'État, justement, s'est débrouillé pour masquer la vérité. Donc cette technologie, elle est intrinsèquement liée à de la capture d'État, à des phénomènes antidémocratiques. D'autres commentaires ?
Je ne suis pas un expert de tout non plus. Peut-être que je suis plutôt... en fait, le seul discours que j'ai pu lire, c'était Jankovicien, on va dire. Je suis d'accord que, en fait, les grands enjeux et les grandes directions de la société, je pense, sont plutôt pris par le ventre que par la rationalité. Donc, c'est vrai qu'un accident, ça bouge plutôt une émotionnalité collective plutôt qu'un choix basé sur la mémoire. Oui, la mémoire, c'est plus doux comme sentiment plutôt que quelque chose qui est là dans le présent. Après, si je mets ensemble les choses, après, je pense que tous les pays cherchent des sources d'énergie faciles et peu coûteux, n'empêche pour des raisons militaires, pour se défendre déjà. Moi, je viens de l'Italie et nous, on achète l'énergie en France. Donc, on n'a pas de centrales nucléaires, mais est-ce qu'on utilise moins les centrales nucléaires que la France? Je ne pense pas. Donc, voilà, c'est tout un tas de questions dont je n'ai pas aucune réponse.
Tu as mentionné la question militaire, évidemment, on n'en a pas assez parlé. C'est une industrie qui est intrinsèquement liée au complexe militaire ou industriel. Les choix techniques qui ont été faits historiquement ont été dictés par des applications militaires. C'est aussi quelque chose qu'on a discuté plusieurs fois ici dans ce séminaire. On a eu des gens qui ont montré la duplicité, par exemple, de l'État français sur les essais nucléaires qui ont lieu dans le Pacifique. Là, récemment, des archives ont pu être analysées montrant le mensonge en fait structurel aussi lié à ces questions-là. Donc voilà. Après, tu mentionnes le fait que structurellement, toutes nos sociétés, à l'échelle de l'Europe, les réseaux d'électricité sont connectés et que en fait, c'est effectivement l'abus d'énergie dans sa totalité qui est problématique. Effectivement, quand on est dans ce type de combat, je pense qu'on est obligatoirement dans une remise en question du monde technologique, techno-industriel dans lequel on vit. Ça me semble difficile. Les scénarios qui existent et qui sont publiés de ci, de là, qui montrent comment on pourrait se passer du nucléaire, c'est des scénarios qui ont aussi des implications intéressantes sur les modes de vie. On doit changer nos habitudes de gaspillage. on doit faire des efforts. Et c'est pas forcément... Donc c'est, quelque part, on est drogué à l'énergie. Et donc, diminuer la quantité d'énergie, c'est un peu se sevrer. Ça demande un certain type d'effort. Mais je trouve l'analogie, en tout cas avec la drogue, assez intéressante. Parce qu'une fois qu'on en est sorti, on a d'autres types de bonheur qui ne sont pas forcément, si mauvais que cela. Mais pour moi, il y a vraiment cette question de se sortir d'un mode d'un mode de vie qui est d'ailleurs, on est assez peu nombreux à l'échelle de la planète à en profiter vraiment. C'est une industrie typique qui fait qu'à l'autre bout de la chaîne, quelque part au Niger ou au Kazakhstan, etc., il y a des gens qui sont en train de miner l'uranium, d'avoir des déchets miniers qui vont rester là très très mal identifiés, très mal gérés pendant des, alors, je sais pas, j'allais dire des milliers d'années, mais en fait j'en sais strictement rien, peut-être plus. Et finalement, c'est un petit peu malhonnête de considérer la question uniquement du point de vue franco-français, en oubliant voilà, toute cette... Alors après, on pourrait me faire remarquer que cette dernière remarque, elle est valable pour toutes les formes d'extractivisme, que ce soit le charbon, les minerais, etc. C'est pas propre à l'uranium. Mais bon, ça participe de ce même système-là, une sorte de pyramide de Ponzi, où au final, il y a toujours quelqu'un qui paye la facture. Il n'y a pas de miracle.
Parce qu'il me semble que si on refuse le nucléaire, bon, la raison aussi, c'est que c'est moins pire du charbon. Parce qu'on tombera sur le charbon.
C'est un peu comme comparer des torchons et des serviettes. Si tu veux, il y a des victimes importantes, un nombre important de victimes du charbon, il n'y a fait aucun doute. Après, ce n'est pas les mêmes échelles de temps et c'est un problème typique de réductionnisme. Toi, tu mets sur une même échelle des choses qui ne sont pas véritablement comparables. Commencer à penser comme ça, c'est une pensée effectivement, une pensée d'ingénieur. Effectivement, tu oublies un certain nombre de paramètres, le long terme, par exemple, et tu te places. Et tu décides de considérer des effets à court terme. Et là, effectivement, tu peux commencer à comparer le charbon. Effectivement, ça a toutes sortes d'inconvénients. Il n'y a aucun doute là-dessus.
L'idée, c'est de ne pas se poser de questions et de croire... de croire à quelque chose qui va nous tomber du ciel. Parfait. Et ça a été ça, et c'est encore ça. La croyance au fait que en dessous de la terre, il y avait de l'argile et que l'argile, ça réglait tous les problèmes.
L'argile qui sert à... dans le projet CIGEO de stockage des déchets qui sert de protection pendant des périodes géologiquement significatives qui empêchera les éventuelles pollutions nucléaires de remonter en surface. Donc effectivement, là aussi, c'est un acte de foi qui est plus ou moins crédible. Et ça pose des questions quasi philosophiques. Est-ce qu'on va croire vraiment cette science géologique comment lui attribuer la possibilité d'affirmer quelque chose qui va se passer dans, je sais pas, 15 000 ans ou bien plus en fait en réalité. Ça pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'il y a encore des commentaires avant qu'on passe au mode informel où il y a un excellent repas qui a été préparé par nos amis visiteurs ?
Pour lire des extraits de documents.
L'appel,
voilà.
L'appel commence par des points extrêmement classiques. Il résume la question des accidents majeurs qui se sont multipliés et qui sont présentés justement de manière relativement biaisée en faisant un bilan comptable qui est très réducteur. Il y a le risque, donc aussi, une fois que l'accident a eu lieu, on a l'exemple de Fukushima, d'avoir des zones géographiques importantes qui sont impactées pour très longtemps. Et donc là, c'est vrai qu'on a entendu récemment, par exemple, Jean Covici qui disait qu'il préférait habiter à Fukushima plutôt que près d'une centrale à charbon. Voilà, il y a ce type d'argument qui est donné. On a pu, grâce aux chercheuses en sciences humaines, spécialistes de cette région de Fukushima qu'on a eu la chance d'écouter ici, comprendre que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Faire sa vie dans un terroir, ce n'est pas juste limité à ce genre de choix. Enfin, c'est très malhonnête de présenter les choses comme ça. Il y a la question du stockage des déchets qui est absolument mal géré. Il y a vraiment un certain nombre de mensonges aussi qui circulent. L'histoire de la piscine, etc., c'est un grand classique. Le projet qu'ils sont en train de construire, ce n'est pas du tout de la taille d'une piscine, c'est des galeries gigantesques qui nécessitent des quantités de béton faramineuses qui sont au moins, enfin qui sont de l'ordre de grandeur du type de la quantité de béton qu'on doit mettre, par exemple, pour faire des socles d'éoliennes. C'est souvent ça qui est quand on critique les éoliennes, on critique souvent le côté béton acier nécessaire. En fait, ce projet CIGEO d'enfouissement des déchets est extrêmement gourmand en matières premières et il coûte une fortune aussi. Et puis donc personne n'a vraiment géré la question du démantèlement. Donc on nous dit qu'on va démanteler ces centrales, mais qui va démanteler des machines qui produisent plus d'énergie, qui sont extrêmement chères à démanteler dans un contexte politique dégradé, hein, puisqu'on n'imagine pas que que les États vont s'améliorer et s'enrichir dans le futur. Donc pour moi, je trouve cet argument extrêmement fort. On est en train de construire des choses qu'on envisage avec encore dans la dynamique des Trente Glorieuses, alors qu'en fait, on se dirige vers des situations politiques instables où il n'y aura vraiment plus personne pour gérer ces infrastructures. C'est vraiment pas crédible de penser que dans 80 ans, quand les EPR seront en fin de vie, il y a des gens qui vont s'amuser à démanteler ça dans les règles de l'art. Je pense que c'est un mensonge. Donc c'est des trucs qui vont rester là, échouer, avec des zones... Et finalement, la question, et ça, je pense que les gens qui se lancent là-dedans le savent plus ou moins, et ils sont finalement en train d'arbitrer entre le futur assez lointain et leur perspective à court terme. C'est mon intuition, je ne sais pas si c'est comme ça dans la tête de beaucoup de monde. Mais est-ce qu'on passe dans le mode informel ? Vous êtes bien silencieuse, silencieux. Très bien. Bah, donc du coup, on va continuer la discussion hors micro. Merci beaucoup. Voilà. Deux petits faits.
Le premier, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur le fait qu'on n'a pas démantelé correctement pour l'instant nos installations et qu'on se lance pour en construire d'autres. Parce que non seulement les démanteler, mais dépolluer, enfin mis au propre, disons nettoyer déjà ce qu'on a déjà sali. Le week-end dernier, j'ai visité une vieille mine d'uranium française à Saint-Priest-la-Prugne, en compagnie du collectif qui se bat pour faire nettoyer en fait tous les résidus qui ont été déposés absolument partout dans la région, ce qu'on appelle les stériles miniers. Alors, les stériles miniers, il ne faut pas croire que c'est juste des cailloux. Ce sont vraiment des matières radioactives. Des matières radioactives avec potentiellement, je l'ai constaté moi-même avec un détecteur, des zones d'émission qui sont 100 fois, par exemple, le bruit de fond naturel. Donc, des matières auprès desquelles il est hors de question de vivre au jour le jour sur la durée. Ce que nous expliquait le collectif qui nous a fait faire la visite, c'est qu'en fait, Areva ou Urano, je ne sais pas, enfin, qui est propriétaire aujourd'hui de cette mine, refuse de nettoyer ce qui reste à nettoyer. Il y a encore beaucoup de sites pollués dans la région. Et la logique qu'on trouve à ça, ce n'est pas une logique financière, ce n'est pas parce que ça leur coûte très cher. C'est parce que s'ils commencent à nettoyer là, ils devront le faire ailleurs. Et il faut, à ce moment-là, ça fera apparaître le coût réel. On pourra commencer à évaluer le coût réel de ce nettoyage, c'est-à-dire tous ces sites qu'on abîme aujourd'hui, combien ça coûterait de les rendre habitables à nouveau. Et bien évidemment, si le démantèlement n'est pas commencé aujourd'hui, c'est justement parce que ça ferait apparaître le coût réel du nucléaire. Donc c'est une fuite en avant. On est en train de relancer une industrie qui n'a pas fait son bilan de cycle complet, qui n'a pas nettoyé derrière elle. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire...
Une grande partie de ce que tu as dit sur les mines d'uranium se généralise à toutes les mines, en fait.
L'industrie
minière, dans l'absolu, génère des stériles et des trucs comme ça qui sont peut-être pas radioactifs, mais qui sont très souvent concentrés en métaux lourds, en arsenic, etc. C'est des questions qui se posent en France sur des anciennes mines d'or et qui se posent évidemment dans les pays du tiers-monde qui sont le lieu actuel, de l'essentiel de l'industrie minière. Et donc c'est un problème qui est donc très concentré pour le nucléaire, mais qui en fait existe dès qu'on a réduit en poudre des choses qui sont stockées dans la croûte terrestre. On les réduit en poudre, on peut dissoudre ensuite de l'arsenic, toutes sortes de métaux lourds, et puis effectivement aussi de l'uranium.
Ouais. Enfin, le point que je voulais souligner, c'est que en fait, si ce nettoyage n'est pas fait, c'est simplement parce qu'il ferait apparaître le coût réel des choses.
Voilà.
Et que c'est ce qu'on devrait exiger. Si on se lance dans une nouvelle technologie, eh bien, il faut avoir une visibilité sur son coût réel complet, y compris pour les générations futures. C'est vrai pour le nucléaire, comme pour n'importe quelle autre technologie, effectivement. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est juste à propos des rejets de Fukushima. Donc, l'eau qui est contaminée, qui est accumulée à Fukushima, donc ce sont des millions de mètres cubes, je vais dire des bêtises parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais ce qu'ont dit les experts du GSUN, c'est que notre centre de retraitement de La Hague évacue en un mois dans la mer à peu près l'équivalent des eaux qui ont été accumulées à Fukushima. Ça veut dire que ça donne une idée de notre état d'anesthésie et d'amnésie, parce que nous avons ici des gens qui viennent de Corée pour nous alerter sur la pollution de leurs eaux. Et nous dormons en paix pendant que La Hague pollue pratiquement tout le quart nord-ouest de l'Europe en permanence. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des accords internationaux qui organisent le silence sur cette pollution. C'est-à-dire que cette amnésie, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre faute à nous. C'est une amnésie qui est organisée par une rétention de l'information, une euphémisation permanente des dégâts et des pollutions que nous générons avec le nucléaire. Voilà. C'est deux choses que je voulais dire pour donner une petite idée concrète, en gros, des problèmes que pose le nucléaire, mais que posent bien sûr d'autres industries.
Donc, ce que vont répondre les tenants du nucléaire sur cette question, c'est que donc, peut-être que c'est peut-être bénin à La Hague et à Fukushima. Mais moi, je voudrais répondre. Non, mais bon, voilà, peu importe. En fait, à mon avis, on peut poser la question différemment. Si vous cherchez un endroit pour passer vos vacances, allez dans le Cotentin, autour de La Hague. C'est une superbe campagne, c'est extrêmement beau. Et vous pouvez faire une randonnée autour de l'usine et vous verrez la démesure de cette usine qui est là pour retraiter des déchets et qui est avec toutes sortes de fûts et de trucs comme ça qui sont stockés là depuis des dizaines d'années sans qu'on sache en faire. Et ça vous montre effectivement, c'est une sorte d'externalité aussi de ce réseau de centrales. Ça vous montre l'échelle complètement démente. C'est une usine gigantesque qui est construite au bout du monde, dans une presqu'île, finalement une campagne extrêmement belle avec des falaises. C'est ça, vous avez cette immense infrastructure industrielle. Ça fait peut-être, je sais pas, 25 km faire le tour de l'usine en suivant les barbelés, peut-être plus. C'est l'ordre de grandeur, grosso modo. Ça vous montre qu'en fait, c'est effectivement pas du tout quelque chose de minuscule. C'est une industrie qui va obligatoirement avec une énorme complexité technique qui est, à mon avis, très difficile à conserver sur le long terme et à garantir sur le long terme. Voilà, je pense que toute promesse qui est faite sur 80 ans ou plus avec ce genre de machine est très difficile à croire. Voilà. Bien. Peut-être que c'est vraiment le vrai moment maintenant où il faut manger. Pas de questions, pas de remarques. Ben, merci aux personnes qui sont venues témoigner aujourd'hui. Merci à Pinod. Merci à nos invités de Corée. Et puis donc on va pouvoir continuer à discuter ici de vive voix à la générale. Bonne soirée.